le magazine des Nations Unies.
Les lignes commencent à bouger et un large consensus se dessine progressivement sur l'impératif du dialogue pour surmonter l'impasse actuelle. Déclaration de Maman Sambo Sidikou, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, était jeudi dernier face à la presse à Kinshasa. Une loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo, c'est peut-être pour bientôt. Une mouture améliorée d'un avant-projet de cette loi a été élaborée avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'était au cours d'un atelier organisé par la Commission nationale des droits de l'homme, CND, du 4 au 8 juillet dernier sur les sites touristiques de Zongo dans la province du Congo central. UNFPA RDC lance la campagne Carton rouge au mariage précoce dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la population, une journée placée cette année sous le thème « Investir dans les adolescentes ». Madame Diane Keïta, représentante de UNFPA en RDC, est notre invitée. Elle nous en dira davantage sur la campagne et sur ce thème.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
L'impasse politique actuelle autour du processus électoral et le dialogue ainsi que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC ont constitué, comme nous le disions jeudi dernier à Kinshasa, les principaux sujets de la troisième conférence de presse du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Un condensé de ces questions avec Honoré Missenga Kalala.
Devant un parterre des journalistes présents à cette conférence de presse, Maman Sidikou Sambo a évoqué notamment la mise en place d'un groupe de soutien à la facilitation de l'Union africaine et les contacts que ce groupe a entrepris à Bruxelles le 9 juillet dernier. Reste pour la suite, a-t-il fait savoir, que les deux partis, gouvernement et opposition, créent les conditions d'un dialogue apaisé et responsable, un appel lancé particulièrement au gouvernement.
S'il y a des prisonniers d'opinion, moi j'ai vu des listes circuler, nous faisons appel au gouvernement pour qu'il se penche sur la question, pour les élargir et pour créer les conditions d'un dialogue apaisé.
Et pour Maman, concernant l'institution habilitée à convoquer ce dialogue, autre pomme de discorde entre les deux parties, les choses sont si évidentes.
Il y a un dialogue qui a été appelé par le président de la République. Un facilitateur a été nommé par l'organisation continentale, l'UEA, au nom du principe de subsidiarité. Un facilitateur est à l'œuvre, soutenu par un groupe d'appui. Le facilitateur travaille et nous espérons que bientôt il va s'exprimer. Et toute initiative viendra de ce côté-là.
Quant à l'insécurité récurrente à Beni et face aux critiques de la société civile, le chef de la MONUSCO a indiqué que la situation n'est pas aussi aisée qu'on serait tenté de le croire.
La situation est beaucoup plus compliquée qu'on la voit d'ici. Et on ne sait même pas exactement qui est l'ADF.
Maman prend à témoin le ministre de la Défense qui vient de cette zone et qui a reconnu dans une déclaration les difficultés de terrain ainsi que la complexité de la tâche pour reconnaître qui est qui.
Du 4 au 8 juillet 2016, le site touristique Séli Safari Zongo dans le Congo central, à 130 km de route de Kinshasa, a servi de cadre à l'élaboration d'un avant-projet de loi portant protection des défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo. Honoré Missenga pour le reportage.
C'est donc au bord de la rivière Inkissi, avec le bourdonnement de ses chutes et les cris d'oiseaux, loin de la bruyante ville de Kinshasa, que la nouvelle mouture de l'avant-projet de loi sur la protection des défenseurs des droits humains a été élaborée. Œuvre des experts venus du ministère de la Justice et droits humains, du Parlement, de la Commission nationale des droits de l'homme, de la société civile et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le député Kombe Fernandez Morola et Maître Mouil a été parmi ses participants. Chacun explique pourquoi il faut une loi pour protéger les défenseurs des droits humains en RDC.
Je suis député, j'ai été sénateur, je suis aussi avocat. Il faut effectivement une loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme parce que la Constitution le prévoit et les instruments juridiques internationaux auxquels notre pays est parti l'exigent aussi.
Les défenseurs des droits de l'homme constituent la pierre angulaire de tous les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme à la République démocratique du Congo. Et donc il est important qu'on trouve une loi spéciale pour eux, pour les protéger, parce que ce sont des gens qui protègent tout le monde sans distinction, sans clivage politique.
On a besoin de cette loi parce que les défenseurs des droits de l'homme sont souvent exposés. Leur mission est très stratégique. Vous savez bien comment tout ce qu'on a connu ici au pays avec des cas comme Norbert Chebeya qui ont été assassinés.
Les travaux eux-mêmes se sont tenus à l'initiative de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, avec l'appui technique et financier du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Mouamba Moussikonko est président de la CNDH, félicite pour sa part les participants pour le travail abattu.
Je remercie tous les participants parce qu'ils ont produit un travail de qualité.
Après le site des Zongo, la suite sera un travail de plaidoyer et de vulgarisation auprès des institutions et des structures associatives concernées par cet avant-projet de loi. À ce niveau-là aussi, la CNDH va compter notamment sur le bureau conjoint, comme le rassure Julien Takla, coordonnateur de cette structure.
L'accouchement a été certes douloureux, mais nous sommes heureux et satisfaits du résultat et de la qualité de ce que nous avons obtenu. Et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et la MONUSCO s'engagent de par leur mandat à continuer à appuyer la Commission nationale des droits de l'homme dans les étapes suivantes qui vont permettre de faire un plaidoyer, de faire la vulgarisation de ce test auprès de toutes les structures associatives, ONG et défenseurs des droits de l'homme concernées et de nous assurer que finalement le test sera non seulement adopté par l'Assemblée nationale, le Sénat, promulgué, mais aussi mis en œuvre pour le bonheur des défenseurs des droits de l'homme congolais.
De retour du site touristique des Zongo au Congo central, Honoré Missenga, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Restons sur le même sujet avec cet entretien que le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a accordé au magazine des Nations Unies. C'était à l'issue de l'atelier de mise en œuvre d'une mouture améliorée de l'avant-projet de loi relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Monsieur Mwamba Mouchikonke répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Monsieur le président de la CNDH, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il faut une loi de protection des défenseurs des droits de l'homme en RDC?
Avant qu'on arrive à ce niveau, les défenseurs des droits de l'homme sont sentis menacés dans l'exercice de leurs activités et ils avaient trouvé, à partir des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies qui exige à ce que les États puissent protéger les défenseurs des droits humains, ils ont profité de ces résolutions pour mener des démarches auprès du Parlement congolais. La première tentative, c'était en 2010, au niveau du Sénat. Les sénateurs avaient estimé que cette loi telle que rédigée présentait certaines faiblesses en rapport avec la base constitutionnelle, en rapport avec l'opportunité et aussi en rapport avec la définition des défenseurs des droits humains. La deuxième tentative, comme la première avait échoué, et les mêmes reproches sont revenus. C'est ainsi qu'avec l'avènement de la CNDH, nous avons compris qu'il faut associer ceux-là qui votent les lois pour qu'on puisse analyser dans les dispositions de la Constitution, comment dégager la base constitutionnelle et définir clairement les défenseurs des droits humains. C'est ce qu'on a fait tout au long de notre séjour ici à Zongo. Mais il fallait aussi monter une stratégie pour qu'on puisse voir comment faire parvenir à voter cet avant-projet entre les deux chambres. La première stratégie est de voir comment faire endosser cet avant-projet. Est-ce que sera endossé par les parlementaires pour que ça soit une proposition de loi ou ça sera endossé par le ministre de la Justice et des Droits Humains pour que ça soit un projet. Ce sont ces stratégies-là que nous avons montées et maintenant que nous avons l'avant-projet, la stratégie est qu'il faut continuer avec les plaidoyers pour faire approprier d'abord aux défenseurs des droits humains qu'ils sachent que maintenant ils ont un avant-projet, il faut s'impliquer dans les plaidoyers. Comme toute œuvre humaine ne manque jamais d'erreur, nous nous sommes dit, il faut encore faire des plaidoyers auprès des parlementaires, c'est là qu'ils sont censés voter cette loi, leur expliquer comment toutes les exigences des deux occasions ratées ont été prises en compte. Nous allons faire tout pour que cette loi, d'ici décembre, qu'on puisse faire approprier ça à ceux qui sont censés voter la loi, c'est-à-dire les parlementaires. Et nous allons aussi voir la question et attrait à l'opportunité, si nous trouvons que c'est opportun qu'on puisse déposer cette loi sur la table du président de l'une des chambres de notre Parlement, à ce moment-là, nous pouvons le faire avant septembre ou à la session de septembre. Mais si nous trouvons que à la session de septembre, ce n'est pas opportun, il faut encore renforcer les sensibilisations, les plaidoyers, les lobbying. À ce moment-là, nous allons déposer ça à la session de mars 2017. Voilà au moins tout ce que nous avons fait pendant ces 4 jours à Zongo.
Je reviens encore à la problématique. Pourquoi une loi particulière de protection des défenseurs des droits de l'homme en RDC?
Vous savez, l'activité des défenseurs des droits de l'homme à travers les pays, à travers le monde, à travers le continent africain, c'est une activité fragile.
Cette activité a beaucoup de risques. On enregistre beaucoup de cas de violation des droits de l'homme, dont les victimes sont souvent aussi les défenseurs de droits humains. Alors, ces défenseurs de droits humains se sont sentis menacés dans l'exercice de l'activité de défense des droits des personnes en RDC et ils ont trouvé qu'il fallait une protection. Et cette protection-là, que ce soit une protection légale, la raison pour laquelle ils se sont battus pour qu'on puisse voir cette loi-là. Donc, à ce niveau, nous considérons les défenseurs des droits de l'homme comme victimes souvent des violations des droits de l'homme liées à l'exercice de ces activités de défense des droits de l'homme.
Cela étant, Monsieur le Président, quelles sont les grandes lignes de cet avant-projet de loi que vous proposez?
D'abord, c'est la définition du défenseur des droits humains. En dehors de la définition, nous avons précisé quelles sont les obligations de l'État envers ces défenseurs-là des droits humains. Et en dehors des obligations de l'État, nous avons énuméré un certain droit spécifique aux défenseurs des droits de l'homme. Et en dehors du droit, nous avons aussi énuméré le devoir de ces défenseurs-là. Et voilà, nous avons aussi monté un mécanisme de mise en œuvre du droit des défenseurs des droits humains. Et ces mécanismes-là, nous venons de renvoyer ça à un acte réglementaire du Premier ministre, qui n'est d'autre que le décret. C'est-à-dire, le Premier ministre doit créer un mécanisme de défenseurs pour protéger les défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo.
Alors, comment on va définir désormais un défenseur des droits de l'homme en RDC?
Les défenseurs des droits de l'homme en RDC, nous avons commencé par toute personne qui défend le droit de l'homme en République démocratique du Congo. Nous avons aussi élargi la définition à toute association légalement constituée qui défend le droit de l'homme en RDC. Nous avons aussi élargi à toutes les institutions qui défendent aussi le droit de l'homme, dont les membres doivent être aussi protégés. Donc voilà, nous avons mis l'État comme premier défenseur, nous avons mis la personne morale comme association de la société civile légalement constituée, et nous avons mis toute personne, vous voyez, des grandes personnalités, sans être dans une association, mais s'occupe de la promotion et de la défense du droit de l'homme.
Vous avez parlé du plaidoyer après cette étape. Est-ce que vous avez les moyens de faire ce plaidoyer?
Oui, nous allons faire ce plaidoyer selon la politique de nos moyens. La CNDH ne peut pas croiser les bras. La CNDH ne peut pas attendre le jour qu'il aura des moyens extraordinaires. Les peu que nous pouvons avoir, nous allons les utiliser à bon escient pour qu'on puisse mener ces activités. Et ici, ce n'est pas seulement l'obligation de l'État congolais à doter des moyens à la CNDH. Nous avons des partenaires techniques et financiers qui doivent aussi accompagner la CNDH. Notre loi ne nous interdit pas de faire recours à d'autres partenaires dans le cadre de la collaboration, d'avoir des moyens.
Et parmi ces partenaires, il y a certainement le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Qu'est-ce que vous attendez particulièrement de ce partenaire?
Le bureau conjoint, c'est un partenaire particulier à la CNDH. Depuis la mise en œuvre du mécanisme national de promotion et de protection des droits de l'homme qui est la CNDH, le bureau conjoint ne cesse à accompagner la CNDH dans ses difficultés et dans ses efforts. Alors, nous les comptons parmi d'abord les premiers partenaires à consulter. Et comme vous le savez, la lutte pour la réalisation de la mise en œuvre de ces mécanismes de protection des défenseurs des droits humains ne va pas se faire seulement par la seule lutte de la CNDH. C'est une lutte de la CNDH en collaboration avec le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Et c'est ce qui justifie même sa présence. Donc pour nous, c'est un partenaire privilégié qui nous accompagne depuis le début, donc depuis la désignation, l'entrée en fonction des membres, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble avec le bureau conjoint.
Merci, Monsieur le Président.
Merci.
De janvier à juin 2016, 718 enfants, dont 93 filles, soit une moyenne de 120 enfants par mois, sont sortis ou se sont échappés des groupes armés dans les provinces affectées par le conflit en RDC. C'est en tout cas ce qu'indique la section protection de l'enfant de la MONUSCO, qui représente une augmentation considérable de pourcentage des filles sorties des groupes armés en comparaison aux 5 dernières années. Le gouvernement de la RDC a réussi à éliminer le recrutement officiel d'enfants dans l'armée nationale. En revanche, le recrutement et l'utilisation des centaines d'enfants se poursuivent dans les groupes armés, souligne la même source. comment renforcer les capacités provinciales en planification de l'aide. C'est en tout cas la thématique d'un atelier technique organisé du 12 au 14 juillet dernier à Kinshasa par le ministère du Plan, avec l'appui technique du PNUD. Les chefs de division et d'antenne des provinces qui participent à ces travaux ont procédé à la validation du rapport des besoins ainsi que du document de programme de renforcement des capacités en planification et coordination de l'aide. Enfin, la campagne sur les médias sociaux organisée par la Cour pénale internationale s'achève ce dimanche. La CPI a mis à contribution sa page Facebook, créée à l'occasion de la célébration de la journée de la justice pénale internationale ce 17 juillet. Le concours, organisé cette année, a comme slogan « Ajoutez une touche de justice à votre vision du monde ». Et pour y participer, il fallait aux compétiteurs de poster tout simplement une photo avec le logo de la CPI représentant une balance, symbole de la justice.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La République démocratique du Congo doit accorder une attention particulière à la situation des jeunes filles qui constituent plus de la moitié de 10 millions d'adolescents dans le pays. Plus de soins de santé, davantage d'éducation. C'est en tout cas en substance le plaidoyer de la représentante du Fonds mondial de la population RDC à l'occasion de la Journée mondiale de la population dont le thème cette année est « Investir dans les adolescentes ». Madame Diane Keïta est l'invitée du magazine des Nations Unies. Elle évoque les différentes facettes de la problématique de la prise en charge des jeunes filles dans cette interview avec Jean-Pierre Elali Coco. Suivez.
Madame Diane Keïta, bonjour.
Bonjour.
Depuis 1989, la communauté internationale célèbre chaque 11 juillet la Journée mondiale de la population. Cette année, le thème choisi est « Investir dans les adolescentes ». Alors madame, pourquoi investir dans les adolescentes ? En d'autres termes, pourquoi ce thème ?
Le thème d'investir dans les adolescentes est essentiel aujourd'hui parce que la population des jeunes est non seulement importante, mais celle des jeunes filles et adolescentes est encore plus grande que cela. Il y a environ 10 millions de jeunes en RDC et plus de 5 500 000 jeunes filles estimées. Donc il est important pour que la population entière puisse être dans les conditions de développement idéal qu'on investisse dans la frange la plus vulnérable, celle qui a besoin de soins de santé, celle qui a besoin d'être à l'école, afin que cela ait des retombées sur la population entière.
Lorsque vous parlez des vulnérables, il y a aussi les femmes, non seulement les adolescentes.
Absolument, mais il y a les femmes, et dans ce cas, on pourrait dire qu'il y a aussi les jeunes gens. Mais les femmes sont déjà à un âge d'adulte où elles ont déjà des moyens de réflexion à leur disposition pour pouvoir s'occuper de leur vie. La jeune fille a tout à refaire, elle ne connaît même pas ses droits très souvent, et donc on doit les sensibiliser, les accompagner pour leur faire connaître leur corps, leurs droits, et aussi comment se comporter en société. Et cela déjà peut prévenir énormément de choses négatives dans leur vie d'adulte.
Madame, vous êtes en RDC depuis 2 ans. Comment votre organisation justifie-t-elle les thèmes dans le contexte de la République démocratique du Congo ?
Vous savez, la République démocratique du Congo a à cœur le bien-être de sa population. Et ça, cela facilite bien entendu mon mandat. Mais la tâche est large puisque la population est très très grande. Donc ce que le Fonds des Nations Unies pour la population a fait en RDC, c'est de s'assurer justement en première chose le plaidoyer, faire de la prévention. S'assurer qu'au niveau des communautés, que les jeunes filles connaissent leurs droits, mais pas elles seulement, que les populations qui s'occupent d'elles, les leaders d'opinion, les leaders religieux, les parents, les encadreurs, puissent aussi les aider à atteindre leur potentiel afin qu'il n'y ait pas de conséquences négatives à leur croissance.
Tout à l'heure, à la conférence des Nations Unies, vous avez parlé des 3 acteurs principaux. Vous avez parlé du gouvernement, vous avez parlé aussi du secteur privé et même des organisations des Nations Unies. Alors, quelle est la part de votre organisation dans ces processus d'encadrement des adolescentes?
Nous intervenons à plusieurs niveaux. Au niveau d'abord du dialogue sur les politiques, travailler avec nos partenaires du gouvernement pour nous assurer que le cadre légal qui existe dans les politiques puisse être écrit, mis en œuvre. Ensuite, au niveau des communautés, nous intervenons au niveau de la communauté pour que les adolescentes puissent avoir accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, qu'elles puissent avoir droit aux produits qu'on appelle de la sécurisation de la santé, dont tous les produits qui s'agissent pour qu'elles puissent être bien. Et également, nous assurons aussi qu'au niveau de l'éducation, qu'elles aient une éducation sur les questions de santé sexuelle, sur les questions de VIH et d'éducation à la vie familiale pour pouvoir entamer un futur plus harmonieux. Mais également également, nous les soignons. Nous soignons parce que beaucoup déjà sont...
Dans des centres hospitaliers?
Dans des centres hospitaliers pour la plupart. Pour la plupart, en fonction de là où nous nous trouvons. Parfois, malheureusement, quand on est dans des camps très très loin, dans des zones reculées, parfois dans des petites cabanes avec des sages-femmes ou des médecins de campagne simples.
Oui, madame, mais puisque nous parlons des adolescentes, l'un des obstacles qui freine la promotion et l'épanouissement des jeunes filles, c'est bien entendu, vous l'avez dit même à la conférence, c'est le mariage précoce. Comment votre organisation lutte-t-elle contre ce fléau dans notre société congolaise?
Le mariage précoce est véritablement un fléau. Mais plus que le mariage précoce, qui est une affaire très culturelle dans bon nombre de sociétés mondiales, parce que
et même africaines, spécialement africaines.
Oui, mais il y a ailleurs aussi, croyez-moi. C'est la grossesse précoce. C'est la grossesse qui vient trop tôt. Si elle ne faisait que se marier et qu'on laissait la jeune fille grandir en sagesse dans sa famille encore, pourrions-nous parler. Mais quand on lui demande d'avoir un comportement de femme, de tomber enceinte, là on met sa vie en danger parce que son corps n'est pas prêt. C'est aussi simple que ça. Et quand au moment où le bébé grossit et qu'elle doit aller le délivrer, le travail peut durer énormément. Et ça abîme son corps fragile de jeune femme et ça crée ce qu'on appelle la fissure obstétricale.
Donc ce sont les conséquences néfastes pour la
ça,
jeune fille.
C'est une des conséquences les plus dramatiques qui soient de ces mariages et grossesses précoces.
Alors revenons à la journée du 11 juillet. En dehors de la conférence que vous avez bien organisée dans le cadre de la cérémonie officielle, est-ce qu'il y a des activités de terrain programmées à Kinshasa ou même dans les provinces?
Énormément d'activités de terrain. D'abord, on a une activité majeure qui est menée par nos réseaux de jeunes, parce que les jeunes veulent être associés. Une campagne qu'on appelle campagne carton rouge au mariage précoce.
Expliquez cela, madame.
Campagne carton rouge au mariage précoce, c'est de s'assurer que toute la population, où qu'elle soit, si on voit qu'il y a un mariage précoce qui va arriver, ou une jeune fille qui a été victime de ce mariage précoce, c'est d'aller vers la communauté, leur parler, faire de la sensibilisation, et leur expliquer les avantages négatifs de ce mariage précoce afin que d'autres jeunes filles ne soient pas soumises à cela.
Dans les centres urbains, ça va, ça peut passer, mais est-ce que ce n'est pas difficile dans les milieux ruraux, cette campagne-là?
Le Congo est un pays vaste et magnifique, mais dans la commune de Bumbu, de Kisenso, les communes de Lingwala, ou les communes de Kimbaseke, Mongafula, de Nsele, par exemple, ou de Massina, pour parler de la région dans la ville-province de Kinshasa, nos jeunes sont déjà à l'œuvre dans les communautés pour le faire. Et ce sont ces jeunes aussi qui vont faire le relais dans des communautés plus lointaines. Ça prendra beaucoup de temps. Mais l'essentiel est déjà que tout le monde soit sensibilisé et que nous puissions commencer la campagne. À côté de cette campagne carton rouge au mariage précoce, nous avons les campagnes qu'on appelle tam-tam PF, c'est faire du bruit, faire des tam-tams, sortir les tam-tams, sortir les instruments traditionnels et la musique.
Pour en faire quoi?
Pour expliquer aux gens, dans ce que nous connaissons le mieux, la musique, faisons attention à nous-mêmes, faisons attention à nos jeunes filles, donnons-leur les moyens de se préserver jusqu'à ce qu'elles rencontrent un jeune homme parfait un jour pour commencer à faire leur famille et protéger nous du VIH-Sida pendant qu'on fait cela. On fait cela en musique, en ambiance, dans ce qu'on sait bien faire en Afrique.
Donc c'est tout cela, c'est une campagne de sensibilisation.
Exactement. On fait à travers le pays.
Et dans quel domaine est votre organisation? Pense que les autorités congolaises peuvent appliquer la politique de la discrimination positive en faveur de jeunes filles?
Vous savez, la RDC fait énormément. Et je voudrais saluer ici la participation au gouvernement à la conférence de Bali sur la planification familiale, à la conférence sur les femmes, pour démontrer l'engagement intersectoriel. Parce que vous savez, pour la question des jeunes filles, touche plusieurs secteurs. Je ne suis pas pour la discrimination positive. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans un pays en développement et chaque personne a besoin d'éducation, chaque personne a besoin de santé. Ce que je voudrais, c'est que ce faisant, on ait une attention particulière pour la jeune fille. Mais oui, pas de politique de discrimination écrite. Ce n'est pas bon, les jeunes gens en ont tant besoin.
Madame, on parle de la discrimination positive.
J'ai bien compris. Mais la jeune fille qu'on essaye d'élever aura besoin du jeune homme à côté, instruit, pour qu'il puisse aussi, lui, être un compagnon idéal pour elle un jour.
Merci beaucoup, madame, d'être venue dans ces studios.
C'est moi qui vous remercie, je suis très reconnaissante. Bonne semaine de la population mondiale.
Trois enfants associés au groupe armé FRPI sont parmi les 200 ex-combattants sortis depuis environ 2 semaines de la brousse et qui ont intégré le processus de démobilisation et réinsertion à Bounia en Ituri. Les détails avec Isaac Remoyope.
Au total, 248 ex-combattants de la FRPI constitués des enfants et adultes sont sortis depuis plus d'une semaine de la brousse par petites vagues dans plusieurs localités de la chefferie de Walindu-Bindi. Ils sont cantonnés aux cités de Kapalai, Kakado et Tchekele. Une délégation conjointe MONUSCO, IE, PNDDR, UNICEF et certaines ONG locales s'est rendue la semaine dernière sur place pour identifier ces ex-miliciens. Parmi eux, il y a 33 enfants qui ont été sélectionnés et acheminés vendredi dernier au centre des transits des Bounia. Les responsables des IEPNDDR à Ituri précisent que ces enfants associés au groupe armé vont suivre une formation pendant une année avant leur réinsertion scolaire et professionnelle. Cette délégation va se rendre encore dans la chefferie de Walindu-Bindi pour vérifier l'identité d'autres ex-combattants cantonnés dans ces sites pour leur intégration au processus DDR. Pendant ce temps, certaines ONG ont intensifié la campagne de sensibilisation au site d'Irumu pour obtenir la reddition de tous les miliciens de la FRPI. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Les deux éléments tués dans les forêts de Beni et qui portaient l'uniforme de l'armée ougandaise étaient-ils des militaires de cette armée? Question posée à partir de Goma. Suivez plutôt la réponse donnée à Kinshasa par Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO.
Je suis Fabrice Coubert de Blessing FM. Les deux éléments qui ont été tués dans les fins fonds du territoire du Béni et qui étaient vêtus en tenue militaire ougandaise, est-ce que actuellement pouvons-nous dire que c'est l'Ouganda qui envoie des gens dans les forêts de Béni pour tuer les Congolais? Merci.
Je vais répondre à la question ici à Kinshasa. Quant à ce qui concerne ces deux éléments présumés être des soldats UPDF, donc de l'Ouganda, nous ne sommes pas impliqués dans l'enquête. Vous avez entendu le porte-parole FRDC Marc Azoulay dire qu'une enquête était ouverte et qu'ils allaient mener à bien cette enquête. Nous attendons les résultats de cette enquête. Si, bien sûr, les forces de la MONUSCO sont sollicitées, nous pourrons appuyer éventuellement cette enquête. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas impliqués dans cette enquête concernant ces deux soldats présumés ougandais qui ont été tués donc en territoire congolais.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je suis Bobo Kitoko Yanari. Actuellement, je suis fonctionnaire au HCR en charge de l'enregistrement des réfugiés. Je fais ISIPA, c'est l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse. Et là, je fais les sciences informatiques à Kinshasa. Et, en fait, comme j'ai dit, je suis gestionnaire des bases de données, donc je suis responsable de l'enregistrement, tout ce qui est enregistrement des réfugiés et des personnes qui relèvent du mandat DHC. Oui, c'est tellement intense, c'est tellement vaste comme tâche. Si je dois parler purement de l'enregistrement, nous gérons un camp qui est à plus de 40 km de Guadeloupe, la ville où nous sommes. Donc principalement, notre travail d'enregistrement, ça se passe au niveau du camp. Une fois les réfugiés traversent la frontière, ils sont scrutinés par nos experts de la protection. Ça veut dire la vérification, contrôler, ils sont relocalisés vers les camps. Et nous, en tant que chargés d'enregistrement, nous partons au camp avec nos équipes et nous faisons l'enregistrement dans notre application qui gère les réfugiés. Donc, c'est une application que nous appelons Progress. C'est l'application qui permet d'enregistrer tous les réfugiés individuellement dans la base des données.
DHCR, disons, c'est mon premier emploi. Aussitôt terminé, j'ai trouvé l'emploi HCR. Je suis là, ça c'est mon quatrième bureau. J'ai commencé à Kinshasa, au Bas-Congo, en 2011. Après le Bas-Congo, je suis arrivé à l'Équateur. J'ai commencé à l'Équateur à Bouburu. C'est dans les territoires des Bomongo, dans l'actuelle nouvelle province de l'Équateur. Bomongo, j'ai fait Guadeloupe, Mbandaka, voilà. Je suis actuellement à Guadeloupe, ça c'est mon deuxième séjour. Travailler sur terrain, on n'a pas vraiment beaucoup de temps libre. parce que vous savez, nous sommes dans des milieux où il n'y a pas assez de distractions. Donc parfois, on se retrouve le week-end au bureau, mais à chaque fois qu'on a le temps, vous savez, nous aimons le football. Et on passe aussi quelques temps avec les amis, généralement les soirs, et on prend juste un verre, quoi. La bouffe, comme tout vraiment Congo qui se respecte, j'aime manger les Nsakamadesu et les riz. Par rapport au sport, c'est le foot. Je soutiens Real de Madrid. Et la musique, bon, je suis plus la musique chrétienne. Dans ma carrière, nous pensons aller un peu plus loin, travailler un peu à l'échelle internationale, donc quitter le pays, aller servir aussi dans les mêmes domaines ailleurs. Et une fois à la retraite, je souhaiterais continuer à servir la jeunesse. Mais je pense que ce sera cette fois-là dans un environnement éducatif, du genre école. Je remercie Radio Capi parce que c'est la radio des références, c'est la radio des connexions, c'est la radio qui unit les Congolais. C'est la seule radio que nous suivons en tout cas de partout. J'ai salué la famille Kitoko, j'ai salué la famille Mavinga, la famille Kita et tous les Congolais.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Nous vous rappelons que le 18 juillet, c'est en tout cas la journée internationale Nelson Mandela. Autre chose à noter dans vos agendas, du 18 au 20 juillet, ce sera une visite de travail en tout cas en RDC du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme. Et le magazine des Nations Unies se propose de relayer les temps forts de ces deux activités. Et c'est ainsi que nous bouclons ce magazine des Nations Unies qui a été coordonné par Jean-Pierre Elali Coco, au reportage Honoré Missenga, à la mise en onde Hippolyte Katanga. Je suis Tina Salama, je vous l'ai présenté avec beaucoup de plaisir, comme tous les jours. Prochain rendez-vous, dimanche prochain en tout cas. Si vous voulez nous réécouter, vous n'avez qu'à aller visiter notre site internet, tapez les www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et à très bientôt sur Radio Tapi.